Voilà, je tiens à remercier d'abord ceux qui ont peut-être prié, pensé à prier pour moi. Hier, j'étais au Bourdin, invité par la paroisse catholique. Hein, et ça s'est très bien passé. Vraiment, je me suis senti bien accueilli. Très, très bien accueilli. On a bu le café avec Annette, avec le prêtre, le doyen du secteur, au Bourdin, l'os, Sente, quand même. Hein. On a fait connaissance, on a échangé. Et après, donc moi j'ai pu, dans la célébration, apporter une homélie de 10 minutes à peu près, sur le thème de l'unité. Donc j'ai parlé de l'unité, j'ai parlé de la croix, hein, comme étant au cœur de l'unité aussi. Voilà, je bénis Dieu pour ça. Ils auraient même voulu très fort que je sois de nouveau là ce matin. Alors j'ai dit, bah, écoutez, l'année prochaine, là, cette année. Donc voilà, je bénis Dieu pour cela, hein. J'ai vraiment senti on a vraiment senti un très bon accueil. Alors, je mets en ordre mes papiers là ici. Voilà, juste avant de donner la petite exhortation ce matin, il était convenu que je dise quelques mots par rapport à notre dernier conseil, hein, quelques mots sur ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce moment au conseil Église. Et sur des objectifs que nous nous fixons. Alors je vous redis quelques pensées importantes qu'on a eues lors de notre dernière rencontre. On a pris du temps dans la prière au début de la journée de ce samedi 10 janvier. On a vraiment ressenti de plus en plus l'importance du corps. Hein ? Nous ne pouvons pas être complets sans la présence et le ministère des uns et des autres. Vraiment, ça c'était reçu très fort, ça fait un moment que le Seigneur souligne ça, mais je vous le dis comme vous puissiez recevoir ce que le Seigneur est en train de dire fortement à nous aussi. Hein. Et la pleine révélation de Dieu aussi, et de ce qu'il nous demande, exige tout le corps. Rappelez-vous, le message de l'OFD, l'intercession, c'est pas l'affaire de quelques spécialistes, et pardon si quelquefois on a laissé entendre ça. Hein, d'accord. Le fait d'intercéder, d'être médiateur, nous sommes tous médiateurs en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est la vocation de chaque enfant de Dieu. L'importance de rechercher la face de Dieu ensemble. On disait qu'on expérimentait à quelques-uns une galère dans nos temps d'intimité personnelle, non pas qu'il faille plus prendre ces temps, mais comme si le Seigneur retenait quelque chose pour dire « Mais je veux que vous les viviez ensemble. » Le psaume 133, « Quand on est ensemble, c'est là qu'il y a l'huile la meilleure. » L'huile la meilleure, d'accord ? Je veux vous révéler, je veux vous conduire ensemble. Alors cela doit nous interpeller hein, par rapport à dire « Bon, au temps de prière, par exemple, ou au rayon de prière, dire, bon, c'est l'affaire de quelques spécialistes. Non. D'accord ? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ? Dieu veut restaurer les limites. Il veut restaurer l'autorité aussi. Dieu nous fait comprendre qu'on a besoin de comprendre l'autorité, son but, qui est essentiellement la protection. Nous avons besoin de comprendre comment Dieu veut voir exercer cette autorité aussi. Et dans cette perspective, nous éprouvons en ce moment un besoin d'ailleurs qui a été exprimé par plusieurs, celui d'être un peu moins flou au niveau du conseil Église. C'est-à-dire, on veut déposer devant le Seigneur ces différentes questions, comment choisir les membres du conseil, comment l'élargir, comment les nommer, quelle couverture mettre à ce conseil. On ressent le besoin qu'il y ait une couverture même extérieure. Quel fonctionnement lui donner ? Et notre prière et notre réflexion voudraient s'élargir aussi au domaine des diacres et des différents ministères dans l'Église. Et cette recherche s'impose d'autant plus que Annette et moi sommes en période de transition, où nous sentons un appel à changer de rôle. J'ai pas dit de lieu, hein, mais de rôle. Alors nous voudrions vous encourager chacun à nous porter dans la prière pour cette réflexion. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord? On a besoin de votre prière, c'est dans l'intérêt de chacun, il y va de notre sécurité, de notre protection, il y va de la croissance de l'Église. D'accord? Voilà. Alors bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part de toute remarque. Hein. Pensez à ce sujet. Voilà. Alors, pour cette petite exhortation que j'ai choisi de vous donner, là, ce matin, je vais vous raconter d'abord une anecdote d'un pasteur. Hein, d'un pasteur qui faisait un moment une marche de prière dans sa ville, à Colorado, aux États-Unis. Et je vais dire après vers quoi je veux en venir. Hein. Alors, voilà ce récit. Il s'appelle Teddy, ce pasteur. J'effectuais un jour une marche de prière. Et je crois que ça rejoint, je crois que le mot-clé peut-être, ce matin, c'était le mot grâce, je sais pas, hein. Vous avez senti le mot-clé ce matin, me semble, la grâce. Bon. J'effectuais un jour une marche de prière au centre-ville de Colorado Springs, en compagnie du directeur musical de notre église. En cours de route, nous avons remarqué un étrange bâtiment. La porte principale semblait verrouillée et hors de service, et les fenêtres étaient placardées. Nous nous sommes dirigés vers l'arrière, où nous avons découvert la porte d'entrée, ainsi qu'un parking plein de voitures. Un homme se trouvait assis sur un banc non loin de là, et nous lui avons demandé le genre d'activité qui avait lieu dans cet endroit. Il nous expliqua que c'était un bar pour homosexuels, et nous demanda même si nous ne désirions pas y entrer avec lui. Après une discussion amicale, nous avons poliment décliné son offre et avons discrètement continué à prier pour l'endroit et les gens qui s'y trouvaient. 2 jours plus tard, comme je devais me rendre à l'église pour un rendez-vous avec un homme de notre congrégation, je décidai d'emprunter l'intersection où se situait le bar, curieux de savoir combien de voitures se trouveraient dans le parking en plein milieu de la journée. À ma grande surprise, en passant devant le parking du bar, je vis un homme de notre église sortir du bâtiment. Après avoir stationné la voiture en vitesse, je l'ai rejoint dans le parking en l'interpellant. Il a levé la tête, mais en m'apercevant, il fixa le sol du regard, détournant la tête en signe de honte. Je lui dis gentiment, « Frère, je vous aime, c'est Jésus qui m'envoie ici pour vous secourir. » Notez bien la réaction de ce pasteur. C'est toute la ligne de ce message que j'aimerais apporter ce matin. Je mets en parallèle cette manière de faire du pasteur, son choix et ce que le Seigneur nous dit ces derniers temps. Rappelez-vous, notre retraite église, une parole qu'avait reçue Colette à la fin de la retraite, l'invitation à passer du jugement à l'encouragement. Je ne sais pas si vous avez été attentif lors de la louange qu'il y a eu avec Souffle de vie ici, il y a un moment, quelque chose de très fort, le Seigneur qui nous disait « Choisis la vie. Choisis la vie. » Ça nous rappelle une conférence qu'on a donnée, hein. « Choisis la vie, choisis la bénédiction. » Donc je mets tout ça en parallèle avec ce récit. Et maintenant, je vais demander à Annette peut-être de passer le premier transparent. Il y a un petit transparent que j'aimerais vous montrer, qui va vous rappeler quelque chose. Vous allez me dire ce que ça vous rappelle. Le premier, hein, oui. Alors, qu'est-ce que vous voyez? 2 arbres. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ah. Ah, c'est Véronique qui brûle. Oui, ah, Colette aussi, t'as dit quoi? Ah oui, oui, et 2 arbres, voilà. Ah, ça nous rappelle la Genèse. Alors on va relire ce passage, d'accord ? On va laisser ces deux arbres quand même. Eh oui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Hein ? On va relire Genèse 2, 8 et 9, il est dit ceci. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, les deux arbres, ils sont là. Hein. Et 15 à 17 aussi. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il donna ce commandement à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, bien sûr, et de l'arbre de vie, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà, c'est bon, on a vu ces deux arbres, on peut l'arrêter. Comme ça, ça me permet de regarder en face, sinon je vais être ébloui tout le temps. Voilà. Alors on est en tant qu'enfant de Dieu, appelé chaque jour dans un choix qui nous rappelle un peu ce choix. Bah, c'est pas une complète similitude dans ce sens que on n'a pas des choix qui nous amènent à la perdition éternelle. On a l'assurance du salut, mais on a un choix semblable, une attitude qui va produire la vie, comme le pasteur, qui aurait pu s'y prendre autrement, et je vais tout à l'heure y revenir, je vais relire certains propos justement qu'il dit. Par rapport à l'attitude qu'il aurait pu avoir. Hein ? Entre une attitude qui va produire la vie ou une autre qui se base exclusivement sur ce qui est bien, ce qui est mal, et qui ne produira pas la vie, mais qui produira la stérilité, la mort. Alors pour illustrer cela, donc, écoutons ce pasteur qui commente ce choix qu'il a fait. Hein ? Il dit ceci, « J'avais le choix d'accoster ce frère sous deux angles différents. » Après l'avoir vu quitter ce barguet, celui de l'arbre de vie ou celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce dernier cas, mes paroles auraient été sans doute intransigeantes, du genre « Vous me décevez profondément. Ce comportement dure-t-il depuis longtemps ? Vous vivez dans le péché et vous devez vous repentir. » Blessé, le frère se serait mis en colère et sur la défensive et l'amertume aurait eu tôt fait d'envahir son cœur. Mes paroles l'auraient endurci face à une rédemption possible. Et toute intervention de la part d'un chrétien par la suite se serait heurtée à une résistance. J'ai plutôt choisi de l'approcher sous l'angle de l'arbre de vie. Frère, je vous aime, c'est Jésus qui m'envoie ici pour vous secourir. Loin d'approuver ce qu'il faisait et sans nullement me compromettre à sa situation, je lui ai néanmoins offert une sortie de secours. Mon objectif était de restaurer sa vie, non de prononcer un jugement sévère sur son comportement. Ce frère a suivi d'ailleurs fidèlement les sessions du conseil et n'a pas succombé à ce genre de tentation depuis. Ça parle, hein ? Ça parle. Est-ce que nous comprenons donc en quoi consiste ce choix hein, qui est là devant nous souvent ? Je fais une remarque tout de suite. Cela ne veut pas dire que l'on fasse abstraction de tout jugement. D'accord ? Ce serait une erreur de penser cela. Et d'ailleurs, c'est Paul, le Seigneur m'a amené à ce passage dans 1 Corinthiens 6, où à l'occasion de différends, Paul attrape les chrétiens en disant, parce que les chrétiens se disaient, on va faire appel à des juges extérieurs. Et Paul les reprend tout de suite, vous n'êtes pas capable de juger des situations. J'ai bien dit, juger des situations, pas juger des gens. D'accord ? Juger des situations. 1 Corinthiens 6, les premiers versets. Et là, c'est vraiment instructif comment ce que Paul nous dit là. Hein. Très, très instructif. Voilà. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre hostile, plaidé devant des infidèles et non devant les saints, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dans l'Église, ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. Je le dis à votre honte, ainsi parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, cela devant des non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne pas vous laissez-vous plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. On voit clairement dans ce passage que Paul affirme que nous avons à juger donc des situations. Nous ne sommes pas des irresponsables. Mais notre combat n'est pas contre l'autre, hein. Contre notre frère, nous devons toujours chercher à ce qui va conduire à la fois à mon épanouissement et à l'épanouissement de l'autre. L'épanouissement dans le Seigneur, j'entends. Attention, pas l'épanouissement selon le monde, hein, attention. Hein. Je dis bien l'épanouissement dans le Seigneur, hein. La maturité dans le Seigneur. Ouais. Et je fais tout de suite une remarque, avoir raison ne donne, à tout prix ne donne pas la vie. Vous comprenez? Et la solution là que Paul préconise, quand il dit « Pourquoi ne souffrez-vous pas quelque injustice ?» Eh bien, il est en train de nous dire « le chemin de vie peut-être, mais c'est pas vrai pour toutes les situations, attention. Quelquefois, le chemin de vie, quand on se dispute parfois pour des choses qui, franchement, ne valent pas beaucoup la peine, le chemin de vie, c'est d'accepter de souffrir quelque injustice, d'accepter de nous dépouiller. » Notre combat n'est jamais un combat partisan. Rappelez-vous la rencontre de Josué quand il est sur le point de conquérir la terre promise, Jéricho. Il rencontre un homme avec une lance, une épée, je sais plus. Enfin, et il dit es-tu pour nous ou es-tu du côté des ennemis, de nos ennemis? Non, lui répond la personne. Et pourtant c'était un représentant de Dieu, c'était l'ange de l'Éternel peut-être, je pense. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis souvent interpellé par cette remarque. Non, je suis. Dieu n'est jamais partisan. Dieu n'est jamais partisan. N'allons jamais dans un combat partisan. Il nous faut toujours être pour la vérité, mais on doit veiller à poser constamment des gestes et des paroles qui favorise la vie. Le choix du pasteur n'approuve pas la conduite de son frère, mais lui donne une sortie de secours. L'Église doit être avant tout un lieu de secours. Nous sommes appelés à être plus des sauveteurs que des arbitres. Je dis bien plus. On est appelés à être arbitre, mais on est plus des sauveteurs que des arbitres. Parce que Jésus est venu, non pour juger, mais pour sauver. Vous comprenez? Un jour, nous sommes dans le temps de la grâce. Un jour, Jésus reviendra en juge, mais pour l'instant, nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Voilà, le mot clé qui était là ce matin, je crois que c'est peut-être le mot clé pour ce message aussi. La grâce doit toujours inspirer notre usage de la vérité. D'accord? Jésus n'est-il pas venu plein de grâce et de vérité? Le psaume 85, la justice et la bonté s'embrassent. Je crois que ça, pour moi, ça me parle de la grâce et de la vérité qui sont ensemble. Donc ce choix de vie, ce choix de poser des gestes ou des paroles qui amènent la vie, chers amis, c'est valable pour le combat spirituel. Ça désarçonne l'ennemi. Je me souviens de périodes difficiles de la relation avec mon patron. Et une fois, il m'a pris en faute pour une petite chose. Et peut-être il allait certainement exploiter cette petite faute. Je suis allé le voir tout de suite. « Oh, je m'excuse, vraiment, je m'excuse, je suis... » Ben, il était désarçonné après. D'accord? Rappelez-vous la parole que j'avais eu dimanche dernier, Deutéronome 33. Que tes verrous soient de fer et d'airain. C'est une invitation à protéger notre cœur, à le verrouiller pour ne jamais laisser entrer la colère, l'amertume, le mépris, la dérision, tout ce qui s'oppose à la vie. Que le Saint-Esprit nous éclaire chacun, hein, sur ce qui doit être verrouillé. Et le résultat de ce choix de poser toujours, de veiller à poser des gestes et des paroles qui sèment la vie, c'est que nous retrouvons notre innocence. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je crois qu'un jour j'écrirai un bouquin là-dessus, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Quelqu'un écrit ceci. La personne qui protège son innocence se reconnaît à son rire facile, son sourire immédiat, sa facilité de pardonner et la flamme perpétuelle qui brille dans son regard. Alors si de source de vie on est tous comme ça, je vous assure, c'est ça va y aller. Hein. Mais prenons garde, Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que nous voulons continuer à choisir la vie, choisir l'arbre de vie et passer notamment du jugement à l'encouragement? Hein, mon objectif ce matin, c'était cela, c'était d'approfondir cette parole qui nous a été donnée par Colette, hein, à la fin de notre retraite. Et cet approfondissement, je le résume en 3 points, d'accord? Protéger son cœur. Ne jamais être partisan. Aller plus loin que la vérité, l'accompagner de la grâce. D'accord? Voilà tout un programme. Ne jamais être partisan, distinguer souvent l'esprit de la personne, enfin, protéger son cœur, verrouiller, contre tout ce qui peut l'alourdir, hein, d'accord? Parce que des relations néfastes, des injustices dans ce monde menacent constamment notre innocence. Elle tente sans cesse de susciter notre colère ou notre amertume et de nous remplir de ressentiments, d'avarice ou de haine. C'est pour ça qu'il faut verrouiller, protéger. Protéger son cœur, jamais être partisan, aller plus loin que la vérité, l'accompagner de la grâce. L'accompagner de la grâce. Voilà essentiellement ce que j'avais à vous partager. Mais je vous laisse avec une image, si tu veux mettre le deuxième transparent, peut-être pour introduire un petit temps où on peut prier, voilà. Hein, et on laissera l'Esprit Saint nous guider dans la prière. C'est l'image d'une lance. Alors je redis quand même, hein, dès qu'on montre une arme, il faut faire cette réflexion, nous ne sommes pas violents. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à la violence. Hein, d'accord, on ne combat pas contre les hommes, on n'est pas pour un djihad chrétien ou je sais quoi, mais souvenez-vous, Paul, il parle des armes, parce que nous sommes dans un combat spirituel, c'est clair, nous sommes dans un combat spirituel, c'est-à-dire c'est l'adversaire de nos âmes que nous combattons, nous devons résister. Et pour avoir la victoire, hein, nous devons être armés, hein, d'accord, et nous devons apprendre à combattre, d'accord, c'est clair ça? Mais on a besoin d'équilibre dans ce combat. Et Dieu m'a montré cette image, enfin m'a montré, pour être sincère, je l'ai lu cette image, mais j'ai trouvé qu'elle était tellement appropriée. Deux parties dans cette lance, le bâton, qui est la lampe, qui est la hampe, et la pointe. Et quelqu'un qui commentait cette image disait, voilà, le bâton... La hampe, c'est notre style de vie. On croit que ça n'a rien à voir avec le combat spirituel et on se trompe. Si je décide de louer ou si je décide de me plaindre, ça change beaucoup au niveau de l'activité du Saint-Esprit, de l'activité démoniaque. Vous comprenez? Si je décide de me plaindre et que je persévère dans un style de vie qui est la plainte et l'amertume, j'ouvre la porte à des esprits démoniaques. Si je décide de louer, au contraire, j'ouvre, c'est vrai que c'est important l'exhortation de Colette ce matin à louer, hein, j'ouvre la porte au contraire à l'activité du Saint-Esprit. Si je décide de m'abstenir de l'alcool parce que je suis faible de ce côté-là, ou si je décide au contraire de me laisser aller, et il y a des répercussions au niveau spirituel. Donc mon style de vie, si je décide de pardonner, si je décide de ne pas pardonner, il y a des répercussions sur le plan spirituel. Rappelez-vous ce que dit Paul, si tu te couches sur ta colère, le diable il va s'engouffrer, il s'engouffre là, d'accord? Et on a besoin de comprendre que le combat spirituel, c'est avoir un bon équilibre entre ce style de vie, le bâton. Si je lance ma pointe comme ça, sans bâton, c'est impossible. Je vais piquer n'importe qui, tandis qu'avec le manche, bon, je vais pouvoir viser quand même, hein, d'accord? Je vais pouvoir atteindre ma cible. Mais la pointe, c'est important, la pointe, c'est nos prières. C'est nos prières inspirées par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est nos prières qui sont des paroles de Dieu inspirées par l'Esprit. Et on a besoin de cet équilibre. Et dans l'Église, il y a besoin des ministères qui nous encouragent dans ces deux domaines. Alors moi, je suis fort sensible au premier, mais je sens un point faible de l'autre côté. J'ai besoin d'être enseigné. J'ai besoin d'apprendre à appliquer la parole de Dieu dans différentes situations pour aller plus loin dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de l'exercice de l'autorité. Mais voyez, si je suis un expert dans la prière, mais que je néglige mon style de vie, c'est déséquilibré. Ma vie est déséquilibrée, je risque de ne pas avoir la victoire aussi. Je ressens que pour que notre Église rentre dans sa destinée, on a besoin de soigner ces deux aspects. D'apprendre à veiller constamment sur un style de vie qui choisit la vie, sur nos choix qui vont dans le sens de la vie, mais on a besoin aussi d'apprendre à exercer la parole de Dieu. On a besoin de prendre tout notre héritage. On a besoin de s'approprier tout le salut de Dieu, de proclamer la parole, inspirée par l'Esprit. Dans différentes situations. D'accord? Alors, je vous laisse avec cette image. Et puis, peut-être on peut prendre un petit temps de prière. Quelle prière ça nous inspire? Enfin, tout ce qu'on vient d'entendre et puis cette image, quelle prière ça nous inspire? Peut-être il y a un point de faiblesse qui dans notre cœur. Peut-être il y a quelque chose à verrouiller. Hein? Peut-être on est souvent pour la vérité, mais il nous manque la grâce. Il nous manque la grâce, Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Peut-être c'est la flèche qui nous manque, c'est peut-être cette autorité de la parole qui nous manque. Voilà.